5.
Dans l'hiver de l'année 39, les événements de la guerre de Pérouse rappelèrent Antoine en Italie. Sa femme Fulvie avait fomenté cette guerre par ambition, par ressentiment contre Octave et aussi, dit Plutarque, par jalousie. Elle espérait que ces troubles forceraient Antoine à quitter Cléopâtre pour venir défendre à Rome son pouvoir menacé. Fulvie avait trop bien réussi. Antoine, il est vrai, cinglait vers Brinde avec 200 voiles, mais Octave victorieux était tout-puissant en Italie. Ses adversaires étaient dispersés ou proscrits. Elle-même avait pris la fuite et allait mourir sans revoir son mari. Antoine apprit sa mort dans une relâche qu'il fit en Sicile. Cet événement, au reste, facilitait la paix. Antoine n'avait pas trempé dans la guerre de Pérouse. C'était Fulvie seule, aidée de son beau-père Antonius, qu'il avait suscité. Elle morte, un accommodement devenait possible entre Antoine et Octave. Coccius, Nerva, Pollion et Mécène leur ménagèrent une entrevue à Brinde. Ils se réconcilièrent et firent un nouveau partage de l'Empire. Octave prit l'Occident jusqu'à l'Adriatique. Antoine eut l'Orient. L'Épide dut se contenter des possessions romaines de l'Afrique. À Rome, où, après tant de discordes et de sang versé, on désirait ardemment la paix, on fut heureux du traité de Brinde. Afin d'en assurer l'exécution, les amis des triumvirs pensèrent à les unir par des liens de famille. Ils mirent en avant l'idée d'un mariage entre Antoine, qui venait de perdre sa femme, et Octavie, sœur d'Octave et veuve de Marcellus. Cette noble femme, qui joignait à une grande beauté les plus rares qualités de l'esprit, ne pouvait manquer, pensait-il, de fixer l'amour d'Antoine. Elle maintiendrait ainsi l'harmonie entre les deux beaux-frères au grand avantage de l'un et de l'autre et pour le bien de l'État. Octave agréa ce projet, et malgré la passion qu'il conservait pour Cléopâtre, Antoine, en raison des avantages politiques de cette union, n'eut garde de la refuser. Les noces furent célébrées incontinent. La loi interdisait aux veuves de se remarier avant le 10e mois, mais le Sénat accorda une dispense à la sœur d'Octave. Antoine séjourna à Rome pendant presque toute cette année 39. Il y vivait en parfaite intelligence avec Octave et s'occupait avec lui du gouvernement de l'Empire. Mais bien qu'il eût part égale dans l'autorité et dans les honneurs, il sentait qu'il n'était que le second à Rome. Dans son légitime orgueil de vieux soldat, d'habile homme de guerre, lieutenant de César à Pharsale et général en chef à Philippe, il se révoltait en pensant à la suprématie consentie par tous de cet adolescent qui venait de raser sa première barbe. Un renommé devint d'Égypte que vraisemblablement Cléopâtre elle-même avait envoyé à Rome, affermissait Antoine dans ses idées par ses prédictions et ses horoscopes. « Ton génie redoute celui d'Octave, » lui répétait-il. « Fier et élevé quand il est seul, il perd toute sa force quand tu te trouves près d'Octave. Ici ton astre s'éclipse. C'est loin de Rome, c'est en Orient qu'il rayonne dans tout son éclat. » Une nouvelle agression des Parthes donna à Antoine un prétexte pour quitter Rome. Il partit avec Octavie et relâcha d'abord à Athènes. Il y séjourna tout l'hiver de 39-38, oubliant là non seulement les Parthes que combattait son lieutenant Ventidius, mais Alexandrie, la vie inimitable, et Cléopâtre. Sans doute il n'aimait pas sa nouvelle épouse, la belle Octavie, autant et de la même façon qu'il avait aimé la reine d'Égypte. Mais assurément, il l'aimait. Aussi faible de volonté que vigoureux de corps, Antoine, esclave de la femme, se laissait facilement dominer. Naguère, Fulvie l'avait asservi. Plus tard, Cléopâtre l'avait ensorcelé. Maintenant, il était sous le charme reposant d'Octavie. À la fin de l'hiver, il partit pour une courte expédition en Syrie contre Antiochus de Commagène, et revint peu de temps après à Athènes, où il passa 2 années. En 36, un nouveau différend s'étant élevé entre lui et Octave, à l'occasion de la campagne navale contre les pirates, dans laquelle il avait refusé de le seconder, la guerre civile parut de nouveau imminente. Antoine prépara une descente en Italie avec 300 voiles. Octave, de son côté, réunit ses légions. Si le sang ne coulait pas encore, les épées étaient à demi hors du fourreau. Dans l'espoir d'empêcher cette guerre détestable, Octavie conjura Antoine de l'emmener avec lui en Italie. L'entrée du port de Brindes ayant été refusée à la flotte d'Antoine, ses vaisseaux vinrent mouiller devant Tarente. Octave, prévenu, menait à marche forcée ses troupes vers cette ville. Octavie voulut descendre seule à terre. Elle marcha au devant d'Octave sur la route de Vénouse, traversant les vedettes et les avant-gardes romaines. Octavie aborda son frère, qu'accompagnaient Agrippa et Mécène. Elle plaida avec chaleur la cause d'Antoine et surtout conjura Octave de ne point souffrir que de la plus fortunée des femmes, elle devint la plus malheureuse. « En ce moment, dit-elle, le monde a les yeux fixés sur moi, qui suis la femme d'un des empereurs de Rome et la sœur de l'autre. Si les conseils de la colère l'emportent, si la guerre se déclare, il est douteux à qui de vous deux le destin donnera la victoire. Mais il est certain que, quelle qu'elle soit, je serai dans le deuil et la désolation. » L'ambitieux Octave convoitait déjà la domination universelle, mais c'était un temporisateur. Il céda aux prières d'Octavie. Pour la seconde fois, cette femme, qui était le bon génie d'Antoine, maintenait la paix dans le monde romain. Les deux triumvirs se rencontrèrent sur le rivage de Tarente, et après s'être prodigués les témoignages d'affection, ils convinrent de renouveler le triumvirat pour 5 ans. Octave donna à Antoine 2 légions afin de renforcer son armée d'Orient. Et Antoine céda à Octave pour sa flotte de la Méditerranée, 100 triremes à Éperon d'Airain et 20 liburnes. C'étaient ces navires qui devaient vaincre à Actium. De Tarente, Octavie revint seule à Rome, avec les 2 enfants qu'elle avait eus d'Antoine. Lui s'embarqua pour l'Asie mineure, où l'appelait la guerre contre les Parthes. Les 2 époux étaient convenus de se retrouver, l'expédition terminée, soit à Athènes, soit à Rome, où Antoine comptait recevoir les honneurs du triomphe. De l'hiver de 39 à l'été de 36, pendant 3 longues années, Cléopâtre resta ainsi séparée d'Antoine. Elle régnait sur l'Égypte et sur Cypre, elle avait 1 fils de César et 2 autres d'Antoine. Elle possédait des revenus immenses et des trésors inépuisables. Mais, dans son orgueil et dans son amour, elle souffrait de l'abandon du triumvir. Cléopâtre, à 20 ans, n'avait vraisemblablement pas aimé César, qui en avait plus de 50. Elle aimait Antoine. Certes, elle s'était d'abord donnée au triumvir par calcul, mais elle n'avait pas tardé à ressentir pour ce rude guerrier, beau de la beauté d'Hercule, maître de l'Orient, entouré de tant de gloire et de tant de puissance, la passion qu'elle lui avait inspirée. Si, à la vérité, les auteurs anciens ne nous disent pas textuellement que Cléopâtre aima Antoine, les événements qu'ils rapportent, les scènes qu'ils décrivent, ne permettent guère d'en douter. Il y a la logique des choses. Avec son aspect de belluaire, sa haute stature, sa large poitrine, sa crinière de cheveux noirs, ses yeux sombres, son nez d'aigle, ses traits durement accusés, Antoine avait sans doute une mâle séduction. Sa première femme, Fulvie, l'aima avec passion. Sa seconde femme, Octavie, l'aima autant que l'on peut aimer. L'altière Cléopâtre, elle aussi, lui rendit amour pour amour. D'ailleurs, Shakespeare le dit, et la parole de ce grand peintre du cœur humain, de ce génie si miraculeusement compréhensif, peut bien suppléer sur ce point au silence d'un Dion Cassius ou d'un Paul aux roses. Si grande que fût la peine de cet autre Didon, l'esprit se refuse cependant à se l'imaginer couverte de voiles de deuil et gémissant au fond de son palais. Vraisemblablement, Cléopâtre continua sa vie fastueuse et riante, donnant au plaisir tout le temps que lui laissaient les cérémonies officielles, les audiences publiques, les conseils de gouvernement, et les conférences avec les architectes et les ingénieurs. Comme tous les Ptolémées, la dernière d'Élagide fut un grand constructeur. C'est du règne de Cléopâtre que date le Typhonium à Dendera. La reine fit aussi travailler, ainsi que l'indiquent ses cartouches, au grand temple de Dendera, au temple d'Edfou, d'Hermontis, de Coptos, et au monument de Thèbes situé sur la rive gauche du Nil. À Alexandrie, outre le Caesareum, qui fut, à ce qu'il semble, commencé par Cléopâtre, elle dut construire nombre d'édifices. Mais, comme de tant d'autres palais et temples plus anciens, il n'en reste pas un vestige sur ce sol que les décombres des siècles ont en maint endroit exhaussé de 10 mètres. La reine s'efforça-t-elle de jouer l'indifférence en laissant Antoine sans nouvelles, ou plutôt, comme l'insinue Plutarque et comme le montre Shakespeare, multiplia-t-elle pendant ces 3 années les appels désolés et les messages brûlants. Selon l'historien Joseph, son tempérament voluptueux portait sans cesse Cléopâtre à de passagères amours. Outre Cnéus Pompée, César, Délius, Antoine et Hérode, roi des Juifs, les 5 amants qu'on lui connaît ou qu'on lui attribue, la reine d'Égypte aurait eu nombre de liaisons et de rencontres anonymes. Est-ce une calomnie ? C'est plutôt une médisance. Quoi qu'il en soit, l'accusation de Joseph ne prouve nullement que Cléopâtre n'aima plus Antoine. Ses complexités du cœur et des sens n'ont rien d'énigmatique. Pour Antoine, il semble bien qu'il avait oublié Cléopâtre. Non seulement pendant les 3 ans où il était resté auprès d'Octavie à Athènes et à Rome, non seulement au retour de son expédition contre Antiochus de Commagène, il n'était pas venu une seule fois en Égypte, mais même en naviguant de Tarente à la Odyssée, il n'avait pas pensé à relâcher quelques jours à Alexandrie, qui se trouvait presque sur sa route. Il cingla droit sur la Syrie. Mais par un étrange retour, à peine Antoine eut-il posé le pied sur la rive d'Asie qu'il sentit son amour se rallumer avec la dernière violence. Il établit ses quartiers à Laodicée et dépêcha incontinent son ami Fonteus Capito en Égypte pour en ramener Cléopâtre. La reine ravie ne pensa pas à retarder son départ afin de se faire désirer davantage comme elle l'avait imaginé 5 ans auparavant. Elle s'embarqua en hâte et arriva à Laodicée, où elle fut reçue par son amant avec des transports de joie. Pour lui témoigner autrement que par des baisers l'indicible bonheur qu'il avait à la revoir, il lui donna non pas des joyaux, mais des royaumes. La Chalcide, la Phénicie, la Célésyrie, une grande partie de la Cilicie, le canton de Générazette en Judée, qui produit le baume, et l'Arabie nabatéenne. Antoine n'avait aucunement le droit de disposer de ces territoires qui appartenaient au peuple romain. Mais, fou d'orgueil autant que d'amour, il s'écriait que la grandeur de Rome apparaissait bien moins dans ses conquêtes et ses possessions que dans les dons qu'il en faisait. Après quelques jours, il fallut encore se séparer, non toutefois sans s'être promis de se retrouver au printemps à Alexandrie. Antoine prit avec son armée la route de l'Arménie. Cléopâtre revint en Égypte en passant par Apamée, Damas et Pétra. Elle voulait régler avec les rois de Judée et d'Arabie le montant des tributs que ces dynastes devaient lui payer chaque année pour les portions de territoire qu'Antoine lui avait données. Le roi d'Arabie promit 300 talents, 1 660 000 francs. Le tribut du roi des Juifs devait être plus élevé. C'était alors Hérode que la protection d'Antoine avait porté au trône peu d'années auparavant. Il vint à la rencontre de Cléopâtre jusqu'à Damas. D'après Joseph, Hérode, qui était fort beau, repoussa les avances impudiques de la reine et voulut même la faire tuer pendant qu'elle était en son pouvoir, afin de délivrer Antoine de cette femme fatale. Mais ses conseillers le dissuadèrent de ce crime, lui représentant que, dans le premier moment, il aurait à craindre une terrible vengeance du triumvir. Cléopâtre était de retour à Alexandrie depuis quelque temps seulement lorsqu'elle reçut un message d'Antoine datée de Leucocome, ville du littoral de la Syrie. Il la priait d'arriver au plus vite avec de l'argent, des vivres et des vêtements pour ses soldats, dénués de toute ressource. La guerre avait été malheureuse. Dans son trop ardent désir d'aller, au printemps, retrouver Cléopâtre, Antoine avait compromis le succès de l'expédition. Parvenu en Arménie, après une marche forcée de 8000 stades, il aurait dû y prendre ses quartiers d'hiver et n'ouvrir la campagne qu'au printemps, avec des troupes reposées et dans une saison favorable. Mais, trop impatient pour subir ce long séjour, il s'engagea dans la haute Médie et, afin de rendre sa marche plus rapide, il laissa en arrière tout son matériel de siège sous la garde d'un détachement. Chariots, tours, catapultes, béliers de 80 pieds de long, tout fut détruit par la cavalerie parthe. Faute de ses batteries, Antoine échoua dans l'attaque de la ville de Phraata. Menacé par des forces considérables, il dut se mettre en retraite. On était au cœur de l'hiver. Les légionnaires marchaient dans la neige au milieu des rafales glacées. Chaque matin, on trouvait des hommes morts de froid. Les vivres manquaient, les routes étaient inconnues, la redoutable cavalerie des Parthes harcelait les colonnes épuisées. Dans cette triste retraite, à laquelle Napoléon aurait pu songer avant de passer le Niémen, Antoine recouvra son énergie et ses qualités de capitaine. Insensible à la fatigue et à la faim, il se multipliait, faisant le métier d'impérator et celui de centurion. Toujours au point le plus menacé, il livra en 27 jours 18 combats aux Parthes. Le soir, il était vainqueur, mais le lendemain, la bataille était à recommencer contre des forces sans cesse grossissantes. Quand Antoine gagna la côte de Syrie, son armée était réduite de 70 000 à 38 000 hommes. Mais, plus heureux qu'avec Crassus, les Romains rapportaient leurs aigles. Cléopâtre eut beau se hâter, elle n'arriva pas encore assez vite au gré d'Antoine. Son impatience tourna en angoisse. Il s'imaginait que la reine ne répondrait pas à l'appel d'un vaincu. Accablé par la tristesse, il tomba dans une sorte de langueur. Il chercha alors à s'étourdir en buvant. Mais les plaisirs de la table, dont il avait été si cruellement privé pendant la campagne de Médie, ne réussirent pas à le distraire. Au plus fort de l'orgie, on le voyait soudain se lever, quitter ses compagnons. Il allait au bord de la mer et y restait de longues heures, les yeux fixés sur l'horizon, du côté où il attendait Cléopâtre. La tant désirée arriva enfin, avec des vivres, des vêtements et environ 240 talents d'argent. Les distributions aux légionnaires, la réorganisation de l'armée, le recouvrement des contributions obligèrent Antoine à demeurer quelque temps à Leucocome. Cléopâtre y resta avec lui. Sur ces entrefaites, la nouvelle du mauvais succès de l'expédition s'étant répandue à Rome, Octavie, toujours dévouée à son mari, malgré les efforts d'Octave qui avait eu la cruauté de lui apprendre le rapprochement d'Antoine et de Cléopâtre, résolut de s'embarquer pour l'Asie. Elle pria Octave de lui donner des vaisseaux, des troupes et de l'argent. Des rapports avaient renseigné celui-ci sur la violence de la recrudescente passion d'Antoine. Il accéda aux demandes d'Octavie dans l'espérance que l'accueil outrageant qu'elle recevrait de son mari la détacherait à jamais de lui et indignerait les Romains. Pour ne pas risquer de se rencontrer avec Cléopâtre, Octavie s'arrêta à Athènes, d'où elle informa Antoine de son arrivée. Mais le triumvir ne voulait pas renvoyer sa maîtresse. Il écrivit à Octavie de rester à Athènes en lui donnant pour prétexte une nouvelle expédition qu'il projetait contre les Parthes. En effet, le roi des Mèdes, sans cesse attaqué par ses hordes turbulentes, proposait à Antoine son alliance pour les combattre. Sans s'offenser du refus d'Antoine de la recevoir, refus dont cependant elle ne se dissimulait pas le véritable motif, Octavie écrivit de nouveau à son mari. Cette lettre ne contenait aucune récrimination. la jeune femme y demandait simplement au triumvir où elle devait faire diriger les renforts et le matériel qu'elle avait amené pour lui. Ce convoi comprenait, outre de nombreux effets d'habillement et d'équipement, des machines de guerre et une grosse somme d'argent, 3 000 hommes d'élite, portant d'aussi belles armes que les cohortes prétoriennes. Octavie avait sacrifié une partie de sa fortune personnelle pour augmenter cet armement. Niger se chargea de la lettre d'Octavie. Reçue plusieurs fois par Antoine, qui le tenait en grande estime, il lui représenta amicalement ses torts envers Octavie, rappela les rares mérites de cette admirable femme et l'exhorta, au nom de ses intérêts, si gravement menacés, et de sa gloire, si tristement compromise, à quitter Cléopâtre. Ébranlé, Antoine hésitait. Il pensa à retourner en Médie. De cette façon, il renverrait Cléopâtre en Égypte, laisserait Octavie en Grèce et ajournerait au retour de la campagne une décision qu'il ne pouvait se décider à prendre. Mais Cléopâtre, avec la divination des femmes qui aiment, lut dans le cœur d'Antoine. Elle se vit en danger de perdre une seconde fois son amant. La reine avait encore sur Octavie l'avantage d'être près d'Antoine. Elle redoubla de sourires et de caresses, exagérant à dessein la passion, d'ailleurs très vive et très sincère, qui la possédait. Puis, aux premières ouvertures d'Antoine sur son départ pour la Médie, elle affecta une douleur mortelle. Elle ne mangeait ni ne dormait plus, passait ses jours et ses nuits dans les larmes. Son visage pâli, ses traits tirés, ses yeux battus, son regard atone, ses lèvres décolorées, frappaient tous ceux qui l'approchaient. Les femmes de Cléopâtre, ses amis, les familiers du triumvir qu'elle avait gagné par ses flatteries et ses promesses, reprochèrent à Antoine son insensibilité. Il l'accusait de laisser mourir de chagrin une femme adorable entre toutes, qui ne respirait que pour lui. « Octavie, disait-il, n'est unie à toi que dans l'intérêt de son frère. Elle jouit de tous les avantages du titre d'épouse. Et Cléopâtre, reine de tant de peuples, n'est appelée que la maîtresse d'Antoine. Elle ne refuse pas ce nom, elle ne s'en croit pas humiliée, elle s'honore de le porter. » Son seul bonheur, sa seule ambition, est de vivre avec toi. » Antoine se rendit, circonvenu par ses discours, et dans la crainte que Cléopâtre, qui avait tout son cœur et à qui sa raison seule le faisait résister, ne mourût de tristesse ou ne prît du poison. Il ajourna son expédition en Asie et revint avec Cléopâtre à Alexandrie, où recommença la vie inimitable. Au commencement de l'année 34, il rejoignit ses légions en Asie. En peu de jours, il battit les Arméniens, fit prisonnier le roi et toute sa famille, et réduisit le pays. Après cette glorieuse campagne, Antoine devait triompher à Rome. Mais par amour, par dévotion pour Cléopâtre, qu'il voulait associer à ses honneurs, il triompha à Alexandrie. Pour la première fois, un Romain triomphait hors de Rome. C'était une insulte à la cité qui paraissait ainsi décapitée. C'était une offense au Sénat et au peuple, à qui seul devait être rapporté l'honneur du triomphe. Ce scandaleux triomphe fut de la plus grande magnificence. Dans Alexandrie, toute décorée et jonchée de fleurs, défilèrent au son des cors et des trompettes les légionnaires, les cavaliers auxiliaires, les prêtres, les turiféraires, les députés des villes portant des couronnes d'or, les chariots remplis de trophées, les milliers de captifs. Devant le char du triomphateur, attelé de 4 chevaux blancs, marchaient à pied le roi Artavasde, sa femme et ses 2 fils, chargés de chaînes d'or. Arrivé devant Cléopâtre qui, assise sur un trône chryséléphantin, présidait au triomphe, Antoine arrêta son quadrige et présenta à la reine les captifs royaux. Après le défilé et les sacrifices, il donna un immense banquet au peuple d'Alexandrie. D'énormes tables étaient dressées dans les jardins du palais et sur les diverses places de la ville. À la fin du repas, Antoine fit asseoir Cléopâtre sur un trône d'or et d'ivoire, et se plaça lui-même sur un trône semblable. Les trompettes sonnèrent, les soldats en armes et tout le peuple se massèrent autour des deux amants. Alors Antoine proclama qu'on appellerait désormais Cléopâtre la reine des rois, et son fils Césarion, héritier du divin Jules, le roi des rois. Il leur attribua de nouveau la souveraineté de l'Égypte et de Cypre. Puis il régla publiquement le sort des trois enfants qu'il avait eus de Cléopâtre. Il donna à l'aîné Alexandre, qu'il appelait Hélios, l'Arménie, la Médie et le pays des Parthes. À sa sœur jumelle Cléopâtre, qu'il appelait Sélénée, le royaume de Libye. À Ptolémée, la Phénicie, la Syrie et la Cilicie. À chaque proclamation du triumvir, les héros répétaient ces paroles et les trompettes sonnaient. Le même jour, Antoine présenta à l'armée et au peuple les jeunes souverains. Alexandre parut avec la robe médique et la sidaris des rois perses. Un peloton d'Arméniens lui servait de garde d'honneur. Ptolémée avait une escorte de mercenaires macédoniens armés de saris de 18 pieds. Il portait le long manteau de pourpre, les crépides brodés d'or et le diadème de pierreries des successeurs d'Alexandre. Déjà Cléopâtre avait donné l'exemple de ses mascarades. 2 ans auparavant, à son retour de la Odyssée, où Antoine avait augmenté son royaume de la Phénicie, de la Chalcide, de la Calaisyrie et de plusieurs autres contrées, elle avait donné à son règne une ère nouvelle et avait pris officiellement le nom de Nouvelle Isis ou Nouvelle Déesse. C'est avec l'étroite robe d'Isis et sa couronne à tête d'épervier et à cornes de vache qu'elle présidait, le sceptre lotoforme à la main, aux cérémonies publiques et qu'elle donnait ses grandes audiences. Docile à ses caprices, Antoine se fit représenter dans les tableaux et les groupes statuaires sous la figure d'Osiris et de Bacchus, siégeant auprès de Cléopâtre Isis et de Cléopâtre Sélénée. Il semblait que, ensorcelé par sa maîtresse, il renia sa patrie pour elle. Il accepta la charge de grand gymnasiarque d'Alexandrie. Il voulut que l'effigie de l'Égyptienne figura au revers de ses monnaies impériales. Il osa faire graver le nom de Cléopâtre sur les boucliers des légionnaires. Il souffrait que, dans une honteuse interversion de rôle, la reine parcourut Alexandrie, assise sur une chaise curule, tandis que lui-même, portant un cimeter oriental et une robe de pourpre à agrafes de pierreries, l'accompagnait à pied au milieu des ministres égyptiens et du troupeau abject des eunuques.